Vous allez sans doute croire que je plaisante si je vous dis que la France est un pays dans lequel l'État est trop faible, dans lequel il n'y a pas assez d'État. Je précise donc ma pensée. Il y en a trop là où il en faudrait moins, dans l'économie, l'éducation, la santé, les transports, et pas assez là où il en faudrait davantage. Par exemple, savez-vous que la France fait partie des quatre pays du monde développés qui compte le nombre le plus élevé d'accidents mortels de la route. En nombre de tués par millions de véhicules et millions d'habitants, nous arrivons juste derrière le Portugal, la Grèce et l'Espagne. Puis, loin derrière nous, arrivent en ordre décroissant l'Italie, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, les États-Unis et les Pays-Bas. Or, lutter contre les accidents de la route relève de mesures très simples que seul l'État peut prendre, mais que chez nous, il ne prend pas. Elles sont fatigantes et ne sont pas électoralement payantes. L'imprévoyance, l'action au coup par coup, c'est-à-dire le plus souvent après coup, sont la détestable règle. Ainsi, François Mitterrand se réveille brusquement pour proclamer que la violence dans les banlieues est une violation du droit, ou que notre enseignement prépare mal à la vie active, que l'école doit coopérer avec l'entreprise en vue de l'apprentissage. En d'autres termes, il reprend à son compte en les présentant comme de grandes découvertes ce que maints sociologues et éducateurs répètent depuis 10 ans sans autre effet que de se faire traiter de fascistes ou peu s'en faut. Ce que Mme Cresson vient d'ailleurs encore de faire à l'Assemblée en traitant de fasciste M. Chirac. En somme, un fasciste, c'est celui qui formule la politique que les socialistes vont adopter 2 ans, 3 ans ou 10 ans plus tard, voire 50 ans plus tard. Lorsque le ministre de la Ville, M. Delebarre, nous annonce sa dernière trouvaille, envoyer les jeunes des banlieues cet été dans les fermes, a-t-il conscience de ressusciter le mot d'ordre du retour à la terre lancé par le maréchal Pétain en 1940 et l'organisation dite des chantiers de la jeunesse sous Vichy? Ces palinodies idéologiques, ces improvisations brouillonnes, ces palliatifs oiseux, comme ceux que nous venons encore de voir en matière de sécurité sociale, d'audiovisuel public ou de fiscalité, ont pour cause une dégénérescence de l'État moderne. Elle se caractérise par le refus de prévoir, pour reprendre le titre d'un excellent article que vient de publier dans la revue Futurible le député socialiste de l'Allier, Jean-Michel Bellorget. Alors que la mission essentielle de l'État, surtout à notre époque où il dispose de tant d'instruments d'analyse et de prévision, devrait être de prévenir les crises et d'agir avant que les situations n'atteignent le degré ultime de la dégradation, il fait le contraire, il refuse de voir les problèmes tant que les réalités ne lui ont pas forcé la main. François Mitterrand et Jean-Pierre Cotte, président du groupe socialiste à l'Assemblée européenne, ont reçu Boris Eltsine de façon injurieuse comme une sorte de clown politique à une époque où tous les observateurs, sauf eux, prévoyaient sa victoire aux élections de la République de Russie, qui fait de lui le chef d'un État 3 fois plus peuplé que la France. Pourquoi cette conduite en apparence suicidaire? Parce qu'elle est suicidaire pour le pays, mais pas pour les gouvernants. Pour les gouvernants, en effet, agir à l'avance, à titre préventif, à froid, c'est bousculer quantité d'intérêts et d'habitudes. Pourquoi prendre ce risque alors que la cure n'est pas encore absolument nécessaire? Comme le dit Bellorget, les gouvernants sont soucieux avant tout de durer. Ils ne peuvent courir le risque d'afficher ou même de négocier de façon trop volontariste des projets mettant en cause leur base électorale. La vraie démocratie exige du courage, aussi bien chez les élus que chez les électeurs. Le dialogue, le fameux dialogue, prépare l'action, il ne la remplace jamais.